Xavier Dornelas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant associé chez Amplegest. On va parler avec vous d'actualité sur les marchés. On a quand même depuis plusieurs mois maintenant l'impression que les investisseurs se focalisent sur différentes échéances politiques, clairement. Il y a quelques années, on n'en aurait même pas parlé ensemble de ces sujets politiques. Aujourd'hui, ils deviennent à des sujets à intégrer dans la gestion.
Alors oui, parce que les marchés maintenant réagissent, notamment pour des questions techniques de liquidité, réagissent assez vite à des événements politiques. Moi, je dirais que l'expérience prouve quand même que les événements politiques, notamment dans les pays développés, sont rarement la cause de risques systémiques et que c'est toujours finalement l'adage qui dit que c'est un bon point d'entrée. Oui, ça reste un bon point d'entrée et les années précédentes l'ont montré. Alors, en Europe, il y a eu une séquence un peu particulière qui était 2011 parce que c'était la question de l'euro et toutes les implications politiques. Les pays ne réagissaient pas du tout de la même façon. Donc là, effectivement, il y a eu un vrai sujet. Mais les années suivantes, on l'a vu avec les élections au Parlement hollandais où il y avait beaucoup d'articles, notamment dans la presse anglo-saxonne, qui grossissaient le risque populiste, enfin le Front national local. Finalement, il n'en est rien ressorti. Donc, je pense que en Europe, ça peut se comprendre parce que la cohérence de la zone, et notamment la cohérence politique, elle est loin d'être achevée. Donc là, pour un Américain ou un Anglais ou un Japonais qui est habitué à vivre dans un système stable avec une monnaie qui est à lui, à un État souverain, on peut comprendre qu'il ait du mal à appréhender l'intégralité du système politique européen.
Qui peut jouer contre,
Il
comme
peut
ça
jouer
est-ce
contre,
comme.
exactement. On l'a vu avec le spread OAT Bund, où les gens ont voulu jouer une protection contre une échéance française. Mais ça se comprend, parce qu'au fond, d'un côté, je me protège contre un risque étatique, donc un risque de taux, et en face, je peux acheter un certain nombre d'actions qui, si l'idée farfelue de sortir de l'euro pour revenir au franc se matérialiserait, il y a un certain nombre d'entreprises qui en bénéficieraient. Donc, c'était pas complètement. Il y a des stratégies qui sont des stratégies de bon sens. Après, est-ce qu'elles vont fonctionner? Non. Et puis après, les risques de perte sur chacune des classes d'actifs n'est pas du tout de la même ampleur, ou le risque de gain n'est pas du tout de la même ampleur. Donc, ça se joue.
Ça a pu créer justement des attentes ou des freins sur certains investissements en Europe, toutes ces, effectivement, ces échéances politiques et l'échéance politique française, par exemple. Il y a peut-être des investisseurs anglo-saxons qui attendent d'être le 8 mai et d'y voir plus clair.
Ah oui, je pense que c'est très clair. Il y a des grands journaux anglo-saxons qui ont fait du French bashing quotidien en long, en large, en travers. Donc ça, effectivement, ça, je pense que ça a freiné les ardeurs. Je crois quand même qu'il y a dans l'esprit, en fait, on observe, enfin en tout cas, moi j'observe deux points qui sont assez différents, c'est qu'il y a une espèce d'incompréhension permanente de ce que c'est que l'euro. Est-ce que c'est une monnaie commune ou est-ce que c'est une monnaie unique? Dans la tête de beaucoup d'investisseurs, ça n'est toujours qu'une monnaie commune et donc il pourrait se désagréger du jour au lendemain. Et puis, il y a par contre ce qu'on observe, ce qu'on peut lire chez les grands asset managers anglo-saxons, il y a une très très bonne connaissance et compréhension du système politique français. Et que vous savez, il y a toujours ce système américain où tout le monde s'effrayait de Trump et les Américains s'en effrayaient beaucoup moins que nous parce qu'ils ont leur check and balances avec le Congrès, qui faisait que finalement le pouvoir de Trump est assez vite contrôlé et limité. En Europe, enfin en France en tout cas, on peut avoir un président et puis après une majorité qui n'est pas tout à fait aux ordres du nouveau président. Donc je pense que grosso modo, c'est pour ça que finalement les marchés montent doucement mais sûrement. C'est parce que les gens comprennent qu'en fait, en réalité, au bout du bout, c'est la macroéconomie qui l'emportera.
Justement, de ce point de vue-là, on en est où sur la croissance économique? Est-ce qu'il y a plutôt des éléments favorables? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive finalement cette année 2017 à avoir une croissance mondiale qui se tient?
Alors, non seulement on est sur une croissance mondiale qui se tient, mais qui accélère, donc ça c'est un point qui est très important. Le deuxième point, c'est justement, c'est le mot mondial, c'est qu'on vit une reprise synchronisée et que ça bénéficie à tout le monde. Le paradoxe, c'est qu'à la limite, le pays qui en bénéficie le moins, ce sont les États-Unis, parce qu'ils ont une économie qui est très domestique. Mais par contre, la cote, le Standard & Poor's 500, est très tournée vers l'étranger. Donc globalement, c'est un point qui est extrêmement favorable. Ce qu'on constate, parce que les derniers chiffres américains ont été un peu décevants, on attendait un PIB à plus 1 et puis finalement on est à plus 0,7. Donc c'est un peu mou, d'ailleurs la Fed l'a confirmé hier. Par contre, on voit que les indicateurs de confiance sont toujours au plus haut. tous ces indicateurs avancés, enfin moi j'ai pas de souvenir qu'il n'ait pas été confirmé après par les données dures, les statistiques officielles. Donc aujourd'hui, oui, on est sur une lancée. Finalement, l'Europe, les États-Unis ont mis 2 ans et demi à 3 ans à sortir de la crise financière. Nous, pour tout un tas de raisons, notamment du fonctionnement du système européen, finalement, on en sort quasiment tout juste. Et puis, il y a un autre point aussi qui me paraît important, ça revient à ce que vous disiez sur la politique, c'est que si vous regardez ce qui s'est passé en Espagne, si vous regardez ce qui s'est passé en Belgique, les Espagnols et les Belges n'ont pas attendu que les politiques s'installent au pouvoir et commencent à travailler. Ils se sont mis à travailler avant. Et alors qu'on était dans une situation politique quand même très incertaine, les indicateurs de confiance continuaient à monter et la population s'est dit, bon, écoutez, ils sont gentils, on ne va pas attendre que soit eux soient en place pour nous y remettre parce qu'il faut qu'on s'en sorte. Donc je pense qu'il y a un point qui est très important. On parle toujours de l'Italie comme l'homme malade
Le sujet sur les banques.
Voilà, exactement. Donc il y a toujours ce sujet sur les banques qui va probablement se régler d'une façon ou d'une autre. Mais on voit aussi que les indicateurs avancés commencent à remonter en Italie. Donc oui, effectivement, il faut toujours qu'il y ait un retardataire dans un peloton. Hein, mais a priori, il suit le peloton. Donc nous, oui, on reste très optimiste sur les perspectives économiques. Et notamment aux États-Unis, tous les indicateurs dont on dispose aujourd'hui pointent vers une accélération de la croissance.
Alors, il y a un sujet qui est en même temps présent. Vous parliez des États-Unis, mais on peut se poser la question d'abord, effectivement, pour les États-Unis, c'est la valorisation. Parce qu'on peut se dire, est-ce qu'on est aujourd'hui sur des valorisations qui sont raisonnables? On voit aux États-Unis des commentaires qui émettent des doutes.
Oui, alors, si je voulais prendre ce commentaire sous le ton de la dérision, je vous dirais que ça fait 10 ans qu'on entend ça sur le marché américain. C'est vrai que le marché américain est cher. C'est vrai qu'à un moment, le marché américain était dangereux parce qu'il n'y avait pratiquement aucune dispersion de valorisation à l'intérieur de la cote. Donc ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas matière à arbitrage, il n'y a pas matière à idée. Aujourd'hui, en fait, cette dispersion s'est recréée. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est vrai que le marché est cher en nominal, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a le poids des fameuses GAFA. Qui sont quand même des titres qui sont assez chèrement valorisés, mais à juste titre, parce que les taux de croissance et les perspectives de marché sont absolument fantastiques. Le reste de la cote est cher, mais si on vit une nouvelle jambe du cycle économique, c'est-à-dire que les Américains accélèrent et vivent un nouveau cycle d'expansion qui dure encore 2 ans, les valorisations de ce point de vue-là ne sont pas du tout aussi tendues. Ça, c'est un... Il y a un deuxième point, c'est que même si les taux d'intérêt remontaient, parce que c'est aussi la grande question, si les taux d'intérêt remontent, la valorisation des actions, oui, sauf qu'on a une augmentation régulière des dividendes. Moi, je vais faire un constat tout simple. Hein. Celui qui a acheté le Standard Poor's pour 500, tout simple, celui qui a acheté le Standard Poor's pour 500, dividendes réinvestis, il a fait le meilleur placement possible au cours des 10 dernières années possibles. C'est-à-dire qu'il a doublé son capital. Hein. Donc ça fait du 7% annualisé quand les taux à 10 ans sont péniblement à 2,5. Donc c'est quelque chose je pense qu'il faut avoir en tête. Donc il y a une mécanique de retour des profits à l'actionnaire. Aujourd'hui, ça s'atténue un peu parce que il faut bien quand même que la population, un jour ou l'autre, quand même, en profite. C'est normal. Mais on assiste à ce phénomène. On démarre ce phénomène en Europe. Les Japonais ont démarré il y a 2 ans et nous, on démarre juste ce phénomène. Donc c'est extrêmement positif pour les marchés. Alors l'autre argument sur la valorisation, c'est de dire, ah oui, mais les indices de volatilité sont au plus bas,
Oui,
donc
ça c'est
on est dans la
encore.
complaisance.
Oui, oui.
Voilà. Bon. Alors nous, on a un peu travaillé sur les indices de volatilité pour voir ce qui les faisait bouger. Et en fait, on s'est aperçu que les indices de volatilité, ils sont extrêmement sensibles à l'incertitude économique. Donc plus l'incertitude économique est forte, plus les indices de volatilité remontent. Là, aujourd'hui, on est dans une période où les indicateurs de confiance sont toujours excellents. La volatilité est basse et en fait, c'est normal, c'est logique. Tout le monde a confiance.
Eh bien, on suivra ça. Merci Xavier Dornelas d'avoir été avec nous.
Je vous en prie.